Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. L'Europe double les doses de vaccin Pfizer. Bruxelles annonce une commande supplémentaire de 300 millions de doses et réaffirme le cadre européen de ces achats, concurrence entre pays impossible et interdite. D'autres vaccins seront bel et bien produits dans des usines françaises, y compris chez Sanofi. La vaccination ouverte aux personnes de plus de 75 ans à partir du 18 janvier et les rendez-vous sur Internet à partir de jeudi prochain. Mode d'emploi dans ce journal. Un projet de concert avec du public pour tester les risques de contamination en salle. Ça se passera en France. Une autre épidémie hors de contrôle, celle de la grippe aviaire dans le sud-ouest, déjà près de 400 000 canards abattus. Donald Trump condamne les violences odieuses du Capitole, virage à 180 degrés. Invité d'Europe Midi, Gérald Bronner, le sociologue qui publie Apocalypse cognitive au PUF, comment notre cerveau est devenu le jouet de la masse d'informations dont il est bombardé. L'épidémie d'irrationalité a de beaux jours devant elle.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Deux fois plus pour ceux qui s'inquiétaient de la faiblesse des achats européens de vaccins et des risques de pénurie. Bruxelles vient de doubler la dose auprès de Pfizer-BioNTech. Isabelle Ory, la présidente de la commission, Madame von der Leyen, vient d'annoncer une commande supplémentaire de 300 millions de vaccins.
Oui, cette année, Pfizer pourra donc livrer 600 millions de doses aux Européens. L'entreprise américaine est en mesure de produire plus car son usine allemande va ouvrir plus tôt que prévu. Rappelons-le, la France a le droit à au moins 15% de ce total, 90 millions de doses. Donc, en tout, l'Europe a désormais précommandé 2,3 milliards de doses de 6 vaccins différents. C'est 5 fois plus que sa population totale, enfants compris. Selon Ursula von der Leyen, l'Europe pourra même aider d'autres pays. La présidente de la Commission espère ainsi faire taire les critiques sur la lenteur supposée du processus européen. Elle a aussi rappelé que les capitales étaient étroitement associées à ce processus.
Nous avons tous pris l'engagement juridiquement contraignant qu'il n'y aurait pas de négociations parallèles, pas de contrats parallèles. Nous travaillons tous dans un cadre européen à 27. Nous négocions ensemble, nous passons les commandes ensemble et nous gérons ce processus de vaccination ensemble.
Alors Bruxelles reconnaît que cet été, l'Allemagne avait conclu seule un accord de principe avec Pfizer-BioNTech car elle avait financé la recherche et elle était quasi la seule à y croire. Mais entre-temps, les commandes européennes ont pris le relais et écrasent cette option. Et quand on évoque les velléités de certains présidents de région d'acheter des vaccins, une source européenne sourit. Plus facile à dire qu'à faire, qu'ils viennent donc se frotter aux avocats américains.
Isabelle Ory à Bruxelles en direct pour Europe 1. Des vaccins qui seront pour partie fabriqués en France, mais pas ceux de Pfizer. Emmanuel Dutheil, compte tenu de la demande, c'est le seul moyen d'augmenter les capacités de production.
Oui, hein, il faut bien se rendre compte d'un point très important. On n'a jamais dû produire autant de vaccins aussi vite en même temps dans le monde. Du coup, toutes les capacités de production sont utilisées et les usines françaises disponibles vont être aussi mises à contribution. L'usine de Recipharm va produire dans l'Indre-et-Loire dès fin février, début mars, le vaccin de Moderna. Delpharm va produire celui de BioNTech ou encore Fareva qui va produire celui de CureVac. Attention, si ce vaccin obtient une autorisation de mise sur le marché. Et puis, et là, c'est beaucoup plus inédit. Sanofi, dont le vaccin, vous le savez peut-être, a pris du retard, pourrait mettre à contribution ses propres lignes de production pour d'autres fournisseurs de vaccins, comme l'a confirmé ce matin sur Europe 1 Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'industrie.
Si techniquement c'est possible, et là encore je redis qu'un transfert technologique pour ouvrir un nouveau site prend du temps et qu'il faut choisir l'efficacité, mais si c'est possible, oui, nous sommes en train d'y travailler dessus.
Alors, du côté de Sanofi, c'est le vaccin d'AstraZeneca qui pourrait être produit. Quant au vaccin de Sanofi, qui pourrait être très prometteur selon plusieurs sources, il est attendu au mieux pour la fin de l'année.
Emmanuel Dutheil, cadence augmentée aussi pour les injections. 26 000 personnes vaccinées hier en France. Le rythme devrait passer aujourd'hui à 50 000 par jour. Et dans 10 jours, désormais, le 18 janvier, le début de la campagne pour les personnes âgées de plus de 75 ans qui vivent chez elles, qui ne sont pas en établissement. Les volontaires pourront commencer à s'inscrire, à faire une demande de rendez-vous à partir de jeudi prochain, Mathieu Charrier.
Oui, en appelant un numéro de téléphone ou bien sur le site santé.fr, vous sélectionnerez le lieu, le jour, à partir du 18 janvier, l'heure et votre lieu de vaccination dans l'un des 100 centres actuellement mis en place. Ils seront 600 à la fin du mois, ça en fait en moyenne 6 par département. Alors avant ce rendez-vous, vous pouvez aller chez votre médecin traitant pour lui poser des questions par exemple, mais cette visite n'est pas obligatoire, elle ne l'a jamais été, a tenu à souligner hier soir Olivier Véran. Le jour J, une fois arrivé dans votre centre de vaccination, deux options. Soit vous serez reçu par un soignant qui vous posera quelques questions, soit vous répondrez à un auto-questionnaire sur papier. Avez-vous été positif au Covid au cours de ces trois derniers mois? Avez-vous été vacciné contre la grippe? Avez-vous des allergies graves, etc. Ensuite, si vos réponses le permettent, eh bien place à l'injection, le plus souvent au niveau de l'épaule, injection faite par un professionnel de santé, mais plus forcément par un médecin, la doctrine a changé. Vous devrez ensuite rester un quart d'heure dans le centre de vaccination, en observation, pour vérifier que vous ne faites pas de choc allergique, et c'est terminé. 3 à 6 semaines plus tard, il faudra renouveler la même opération pour le rappel, c'est-à-dire la deuxième et donc la dernière injection du vaccin.
Mathieu Charrier, à l'instant, l'Agence européenne de médicaments recommande l'utilisation de 6 doses par flacon du vaccin Pfizer-BioNTech. C'était un débat qui était né en Allemagne et qui avait rebondi en France dans une petite fiole de vaccin. Il y a normalement 5 doses, c'était la recommandation du fabricant, mais en fait il en reste un peu et donc on peut faire une 6e dose qui, si je compte bien, augmente de 20% le nombre de doses disponible. À noter encore ce terrible record à nouveau franchi aux États-Unis hier, 4000 morts en 24 heures et plus de 130 000 patients hospitalisés dans tout le pays. À Los Angeles, où une personne meurt du Covid tous les quarts d'heure, les autorités ont déployé plus d'une centaine de remorques frigorifiques pour servir de morgue provisoire dans les hôpitaux submergés. On reviendra aux États-Unis dans 3 minutes avec la suite des folles aventures de Donald Trump.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Une pause avant une autre épidémie hors de contrôle, celle de la grippe aviaire, près de 400 000 canards déjà abattus.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Une épidémie hors de contrôle désormais dans le sud-ouest pour le ministre de l'Agriculture face à la grippe aviaire. Écoutez bien la formule, le dépeuplement massif est inéluctable. Ce qui veut dire, en français normal, Stéphane Place, que des canards d'élevage vont encore être abattus par centaines de milliers.
Oui, des foyers d'infection, 119 dans le seul département des Landes, qui se multiplient dans la zone historique de production de la chalosse, mais pas seulement, d'où le renforcement des mesures d'abattage des canards, et dans les élevages touchés, et dans les exploitations autour, dans un périmètre non plus de 3 mais de 5 km, m'indiquait il y a quelques minutes l'entourage du ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, qui est en route pour Mont-de-Marsan. Il y sera dans un peu plus d'une heure et rencontrera les professionnels de la filière, notamment Marie-Pierre P, qui est la directrice de l'interprofession du foie gras.
Malheureusement, et c'est la mort dans l'âme, je pense qu'il faut pouvoir dépeupler autour des foyers qui apparaissent de façon à éviter qu'il y ait à nouveau des passerelles qui s'effectuent. Il faut du renfort humain pour aider les équipes sur le terrain. Aujourd'hui, le virus, il est rentré dans des petites exploitations, dans des grandes exploitations, dans des bâtiments modernes, tout neufs, qui ont une biosécurité extrêmement bien respectée. Aujourd'hui, le virus est plus fort que nous et il attaque quel que soit le type d'élevage.
Des abattoirs vont donc être réquisitionnés pour accélérer le dépeuplement et, c'est un point important, le ministre Julien Denormandie promet des indemnisations rapides aux acteurs de la filière avec des acomptes versés dès la semaine prochaine.
Stéphane Place, le correspondant d'Europe 1 dans le sud-ouest. Emmanuel Macron ce matin à Jarnac en Charente sur la tombe de François Mitterrand, 25 ans après sa mort. Sans prise de parole, le président s'est recueilli un quart d'heure après les vétérans du Parti Socialiste et les proches de Mitterrand, avec en tête François Hollande et Ségolène Royal. Aux États-Unis, au lendemain du chaos qu'il a lui-même suscité, Donald Trump, le président insurrectionnel, redevient celui de la loi et de l'ordre. Attaque odieuse, dit Trump, scandalisé par les violences.
Je veux d'abord évoquer l'attaque haineuse contre le Capitole des États-Unis. Comme tous les Américains, je suis scandalisé par la violence, l'anarchie et la pagaille. Les manifestants qui ont infiltré le Capitole ont défié le siège de la démocratie. À ceux qui se sont lancés dans la violence et la destruction, vous ne représentez pas notre pays. Et à ceux qui ont enfreint la loi, vous devrez payer. Maintenant que le Congrès a certifié les résultats, une nouvelle administration sera intronisée le 20 janvier. Mon but est désormais d'assurer une transition en douceur, ordonnée et transparente.
Xavier Yvon, on était accoutumé aux volte-face de ce président-là, mais là, il faut nous expliquer, trouble cognitif ou pur cynisme?
Je vais oser sauvetage de meublisme.
Bon, poursuivez.
En fait, ça a été visiblement compliqué d'aboutir à cette déclaration vidéo. Les conseillers de Donald Trump ont dû s'employer pour le convaincre, hein, selon les informations du New York Times. Son directeur de cabinet a même dû demander à sa fille Ivanka de faire entendre raison à son père. La crainte de conséquences judiciaires a été en fait un déclencheur, toujours selon le journal. Donald Trump aurait réalisé qu'il était menacé quand le procureur de Washington a laissé entendre hier qu'il pourrait poursuivre le président pour avoir donc incité ses partisans à attaquer le Capitole. Cela explique aussi la condamnation, cette fois sans détour des violences, qu'on a entendue. Et puis il y a une autre raison à cette volte-face, son administration s'écroule autour de Donald Trump. Deux ministres fidèles qui sont là depuis le début de mandat ont démissionné en critiquant vivement le président. Des conseillers ont claqué la porte de la Maison Blanche. Un ex-chef de cabinet, Donald Trump, réclame sa destitution immédiate, se joignant en voix d'autres républicains et de tous les démocrates. Le Wall Street Journal, qui est un quotidien conservateur plutôt proche du président, lui demande carrément de démissionner. Ce serait mieux pour tout le monde, écrit l'éditorial du journal. En fait, ce qui s'est passé mercredi au Capitole a eu l'effet inverse qu'escompté. Ça devait permettre, en théorie, à Donald Trump de rester au pouvoir. Eh bien, en fait, ça a accéléré sa chute et le président sortant essaie désormais d'en limiter les dégâts.
Xavier Yvon, merci. Retour en France et à la crise sanitaire avec un projet de concert en forme d'essai clinique. Je m'explique, il s'agit d'organiser de vrais concerts avec des artistes sur scène et des spectateurs, des vrais spectateurs, dans différentes configurations, pour voir si on peut remplir des salles sans les contaminations qui vont avec. Angèle Châtelier.
Oui, et le projet est déjà bien avancé en France. Le principal syndicat du spectacle vivant, le Prodis, y travaille depuis novembre. Sur le même principe que ce qu'a fait l'Espagne. À Barcelone, mi-décembre, ils ont réuni 463 spectateurs dans une salle fermée. Tous ont dû faire un test antigénique avant pour être sûr qu'il soit négatif. Et pendant le concert, l'intégralité du public avait un masque FFP2, les plus protecteurs. Alors la particularité de ce concert test, bien c'est que les spectateurs pouvaient danser debout et résultat, 8 jours après, tout le monde était négatif. C'est la preuve qu'on peut organiser des concerts, même en pleine pandémie, ce que souligne Malika Seguino, directrice du Prodis.
Près de 60% de nos dates, c'est de la jauge debout. Il faut dès maintenant nous dire, au printemps, on recommence les concerts en jauge assise. Pour préparer les mois suivants, on fait une expérimentation en debout. Parce que derrière, et vous l'avez vite compris, ce qui va se jouer, c'est la saison des festivals de l'été.
Alors allons-nous vers l'obligation de faire des tests antigéniques à court terme avant d'aller en concert à chaque fois? En tout cas, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a jugé que l'expérience en Espagne était intéressante. Selon le Prodis, la mairie de Paris a déjà donné un accord de principe pour que ça se passe en France. Mais s'il se tient, il faudrait que ce soit en mars ou en avril maximum pour laisser le temps au festival de l'été d'organiser évidemment leur programmation et leur billetterie.
On va suivre cela avec vous. Merci Angèle Châtelier. Le temps, Anissa Haddadi, beaucoup plus lumineux.
Vous voyez que parfois j'annonce de bonnes nouvelles, Patrick. Eh bien ça y est, sur de nombreuses régions, cet après-midi, le plafond gris que nous avions hier au-dessus de nos têtes, eh bien n'est plus là. Cet après-midi, le temps est beaucoup plus lumineux. De la région parisienne au massif central, nous aurons beaucoup d'éclaircies cet après-midi. En Nouvelle-Aquitaine, là aussi, le soleil est généreux. Des Pyrénées à la Côte d'Azur, le temps reste sec, ensoleillé, mais attention, pas mal de nuages d'altitude dans le ciel qui viendront de temps en temps voiler le soleil. C'est encore dans le nord-est, des Ardennes à l'Alsace, que le ciel est très gris. Une ambiance hivernale avec le long des frontières des petites chutes de neige. Et puis de la Bretagne aux Hauts-de-France, nous avons encore cet après-midi des averses le long des côtes de la Manche, entre deux éclaircies bien sûr. Les températures, alors elles ne bougent pas. Elles sont toujours aussi froides, bien en dessous des normales de saison. Avec cet après-midi, moins 1 à Saint-Étienne, 2 à Nancy et Dijon, 4 pour Strasbourg et Lyon, 5 à Paris, Bordeaux et Caen, 6 pour Brest, 10 à Marseille et 12 la maximale pour Bastia.
Merci à vous Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, le sociologue Gérald Bronner, Trump, le virus et l'épidémie d'irrationalité.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Gérald Bronner.
Bonjour.
Professeur de sociologie, vous travaillez depuis des années sur les croyances collectives et les thèses complotistes. Apocalypse cognitive, qui paraît au PUF, est votre livre le plus ambitieux et aussi le plus pessimiste. Il arrive après une année de crise sanitaire et de confinement qui a été un incroyable accélérateur d'irrationalité à cause du temps passé sur Internet à lire n'importe quoi. Et 2021 commence fort avec les événements de Washington. Est-ce que l'insurrection du Capitole avant-hier n'est pas la démonstration que l'irrationalité peut conduire au fascisme ?
En tout cas, ces événements effectivement sidérants, qui nous ont tous sidérés, et c'est la preuve, je crois, en acte, que les épidémies de crédulité ne sont pas seulement confinées sur les réseaux sociaux, que parfois elles s'incarnent politiquement, alors là, dans cette pseudo-insurrection, d'autres fois dans la méfiance vaccinale. Et en effet, quand tout à coup cette rage qui est sans programme politique. C'est ça qui est intéressant, parce que ce qu'on a vu, c'est des gens qui envahissent le Capitole, et une fois qu'ils y sont, bon, ça montre quand même la fragilité de certaines institutions, même aux États-Unis, mais ils ne savent pas quoi faire. C'est-à-dire qu'ils se prennent en photo, ils font des selfies, ils s'installent dans les bureaux. Il y a quelque chose d'un carnaval un peu vide, et cette rage qui est bien réelle, elle est sans programme politique, mais elle n'est pas sans récit. Il y a donc bien un récit derrière cela, celui des élections volées. Et puis on a vu surtout que la colonne vertébrale de ces individus, eh bien c'était de cette radicalisation d'une partie de l'électorat républicain. C'est le mouvement QAnon, dont on sait qu'il est conspirationniste. Et avec cette figure de Jack Angeli, qu'on a tous vu, ce monsieur avec ses cornes-là, le corps tatoué de symboles très signifiants, et qui représente comme ça la figure saillante et grimaçante de cette radicalisation.
Et des gens qui n'agissent pas... seulement, contrairement à d'autres crises ou mouvements populaires, en fonction de leurs propres intérêts. C'est-à-dire qu'ils ont des croyances, ils y croient sincèrement, ils croient sincèrement à ce qu'ils disent, et sans doute peut-être même que Trump croit aussi lui-même, au fond de lui-même, qu'il a réellement gagné l'élection et que ce succès lui a été volé.
Alors je dois vous dire que je suis plutôt d'accord avec vous, effectivement. J'aurais pas forcément dit ça il y a deux ou trois semaines. J'aurais misé sur un cynisme politique insupportable de Donald Trump. Mais en écoutant, je sais pas si vous l'avez fait, l'intégralité
Absolument.
Des échanges qui durent à peu près une heure.
Publié par le Washington Post.
Voilà, le secrétaire d'État à l'État de Géorgie, eh bien, on découvre en effet que très probablement, il croit à toutes ces billevesées et qu'il pense vraiment avoir été dépossé. Alors, vraiment, l'enjeu, je pense, pour les États-Unis, la politique américaine, ce qu'on appelle le Trumpisme, qui n'est pas vraiment un programme, qui est plutôt une rage, c'est de savoir comment ces thèmes, ces narrations vont essaimer. Et on a des enquêtes qui montrent qu'un certain nombre de thèmes n'essaiment pas dans l'opinion publique, par exemple, l'idée selon laquelle il y aurait des réseaux pédophiles, sataniques, ça reste très minoritaire, mais par contre, ce qui devient majoritaire, c'est l'idée d'un État profond, hein, le Deep State, c'est-à-dire une idée très dangereuse pour la démocratie, qui nous dit que, grosso modo, le jeu politique n'est fait que d'apparence. Ceux qui ont vraiment le pouvoir sont en deçà, c'est genre des rideaux, l'État profond. Et en l'occurrence, ça permet à Donald Trump de dire que tous ces échecs ne sont pas dus à lui, mais dus au caractère malveillant de ceux qui ont vraiment le pouvoir. Et ça, c'est une forme de dynamite, n'est-ce pas, pour la démocratie.
J'en viens à votre livre, Gérald Bronner, « Dans la démocratie des crédules », paru il y a 8 ans. Vous vous demandiez déjà pourquoi la libre circulation de l'information et la hausse du niveau d'études ne conduisaient pas nos sociétés vers une forme de sagesse collective. Dans ce nouveau livre, « Apocalypse cognitive », vous allez plus loin en parlant de menaces sur notre civilisation, en expliquant que ce phénomène révèle de la nature humaine, de notre nature profonde. Mais d'abord, le point de départ, si l'homme est un animal pensant, il n'a jamais eu autant de temps pour penser, communiquer, s'informer, se distraire dans toute l'histoire de l'humanité.
Oui, alors ça, c'est parce que je n'annonce pas que des mauvaises nouvelles. Moi aussi, je suis un optimiste, en fait, Patrick, même si ça ne se voit pas.
Oui, mais enfin, la tonalité complète du livre, on y viendra.
Alors,
en tout cas,
la première bonne nouvelle qu'il faut rappeler, c'est qu'en effet, on n'a jamais eu autant de disponibilité mentale, en quelque sorte. Hein, si on retire le temps sur 24 heures, quand on retire le temps de travail, le temps biologique du sommeil, etc., on a un temps à consacrer, par exemple, à la culture scientifique, à la littérature, à écouter des œuvres musicales. C'est du moins ce qu'on espérait, notamment. C'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir en écoutant un discours de Jean Perrin, qui était prix Nobel de physique, mais aussi ministre, et qui annonçait, prophétisait, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, voilà, un avenir radieux. Alors il avait raison sur le premier point, donc une disponibilité mentale qu'on peut évaluer à la louche, si je puis dire approximativement, ouais, qui a beaucoup augmenté. On a à peu près 8 fois plus de disponibilité mentale qu'au début du 19e siècle. En tout cas, on en a plus considérablement, mais pour faire quoi? Et c'est bien le problème, c'est que cette disponibilité mentale, elle rencontre un autre phénomène technologique majeur, qui est en quelque sorte la dérégulation du marché de l'information, c'est-à-dire une disponibilité jamais atteinte dans toute l'histoire de l'humanité et la possibilité pour chacun d'entre nous de donner notre point de vue. Alors ça crée une cacophonie mondiale, ce qu'on pourrait presque appeler un cocktail mondial, vous savez, où il y a un brouhaha permanent. Et ce que je constate, c'est que certaines propositions intellectuelles, elles ont la vertu ou le désavantage, selon l'endroit où on se place, d'attirer notre attention plus que les autres. La crédulité, vous l'avez bien dit, c'est une des facettes seulement du phénomène. Parce que pendant longtemps, on a cru que sur un marché libre des idées, finalement, à terme, ce seraient les meilleures idées, les plus rationnelles qui s'imposeraient.
C'est ce que pensait votre maître Raymond Boudon.
Absolument, et sur ce point, je suis obligé d'être un peu en désaccord avec lui.
Qui était un grand sociologue.
Un grand sociologue
libéral,
français, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Mais effectivement, ou Thomas Jefferson, parmi un des fondateurs de la démocratie américaine, qui disait la vérité peut se défendre toute seule. Et ce qu'on apprend, ce qu'on découvre, c'est que non, sur un marché dérégulé des idées, la vérité ne se défend pas toute seule. Mais le problème ne tient pas seulement à la crédulité, car d'autres types de propositions sont de nature à attirer notre attention. Par exemple, la peur, n'est-ce pas ? Par exemple, la violence, la conflictualité, toutes ces choses qui font que, ben, on trouve que le monde numérique est devenu sidérant, mais qu'en même temps, on n'arrive pas à rompre avec lui. Et qu'on n'arrive pas à ne pas aller regarder ces propositions d'une agression, par exemple, etc. Donc il y a quelque chose qui, en nous, comme je dirais, conspire à cet état du marché de l'information.
Ah, vous allez vite, très bien. Donc on a du temps de cerveau beaucoup plus important, du temps disponible qui est siphonné par les écrans, en quelque sorte. Oui. On a ce déluge de données flatte nos goûts pour le sexe, pour le conflit, pour la peur. Ce constat-là, beaucoup peuvent l'exprimer ou y adhérer. Là où vous vous distinguez, Gérald Bronner, c'est que vous pensez, vous, que ce n'est pas l'offre qui crée la demande. C'est pas parce qu'il y a des sites porno que les humains visionnent des milliards de vidéos porno. Vous pensez que c'est la nature profonde de l'homme qui se révèle ? Comment arrivez-vous à cette conclusion ?
Bon, je crois que c'est d'une grande banalité, en fait. Hein,
là,
de ce point de vue, oui, je pense qu'il y a effectivement un attrait, parce que nous sommes des mammifères. Les êtres humains ne sont pas les seuls à être attirés par des objets de sexualité. Nous sommes des grands singes. La sexualité, ça compte. Ce qui me paraît intéressant sur le temps long de l'histoire, c'est qu'on a cherché, on a produit des récits qui voulaient nous dire le contraire. Par exemple, les grands récits religieux se sont beaucoup, notamment les monothéismes, inscrits contre cette compulsion et cet intérêt pour la sexualité, en cherchant à nous faire croire que, finalement, cette compulsion pour la sexualité viendrait d'une tentation extérieure, le diable, ou que sais-je. Aujourd'hui, les récits ont un peu changé. On nous dit que c'est notre environnement, par exemple, numérique, ou le capital, le marché, qui, en fait, dévoie notre nature. Je rappellerai simplement qu'à chaque fois, que cette proposition a pu naître, c'était bien avant Internet, d'une proposition, par exemple sur la sexualité, puisque le sujet vous intéresse, Patrick.
Comme vous qui mettez en exergue. Pardon, vous expliquez que c'est la première source.
Ce sont les premières vidéos de loin regardées dans le monde.
Diffusées sur Internet dans le monde.
Un seul site parmi d'autres, c'est vrai, c'est le leader mondial, mais tout de même, annonce 629 000 années de temps de cerveau qui s'évapore dans la contemplation pornographique chaque année. Donc ça fait beaucoup, mais avant cela, songez au Minitel, par exemple, vous rappelez, cette pointe de la technologie française, ce qui était presque déjà Internet, eh bien, on sait que la moitié du trafic du Minitel était converti pour le Minitel rose. Donc, cette compulsion, si vous voulez, pour cette demande d'image de sexualité, elle n'est pas forcément coupable.
Donc, le réveil de nos instincts au détriment de la raison.
D'un certain nombre d'éléments saillants, en effet, par exemple, la colère, la conflictualité. Je montre dans le livre qu'en fait, on s'intéresse par exemple pour Alain Finkielkraut ou Manuel Valls ou Bouba, qui sont des personnalités très différentes, mais très publiques.
Oui, c'est la culture du clash.
Voilà, ce qui nous a intéressé le plus, si on regarde les recherches sur le Google, qui est quasiment monopolistique en France comme moteur de recherche, et on voit que de toute leur œuvre, c'est le moment de conflictualité qui nous a intéressé le plus, et c'est profondément inscrit dans notre esprit, puisque des études montrent que lorsqu'on vous présente des dizaines de visages différents, avec des émotions différentes, de la tristesse, de la joie, ce que vous allez voir en premier, ce sur quoi votre cerveau va attirer votre attention, c'est un visage en colère. Parce que la colère représente, dans un monde où je vous rappelle quand même le prédateur depuis toujours, le principal prédateur de l'humain, avant même le moustique de très loin, c'est les autres êtres humains. Donc il y a quelque utilité à être capable de distinguer très vite la colère sur le visage de quelqu'un qui peut être un antagoniste.
Donc la question est de savoir qui nous tire vers le bas. Est-ce que c'est notre cerveau, d'une certaine façon, c'est votre thèse, ou est-ce que c'est l'offre d'Internet et cette masse d'informations qui nous tire ? Mais qu'est-ce que vous faites, Gérald Bronner, de l'environnement social, de l'éducation, des normes transmises par les familles, par les enseignants, de ceux que vous appelez les gatekeepers, les portiers qui sont certes affaiblis, qui étaient avant jusqu'ici et qui le sont encore un peu, ceux qui sont légitime à porter l'information et la parole publique.
En tout cas, je crois qu'il n'y a aucune fatalité dans ce que je décris. Je dirais que dans notre cerveau, qui est l'outil le plus complexe de l'univers connu, 1 000 000 000 milliards de connexions, il y a plein d'histoires différentes possibles. Il n'y a pas de détermination. Mais il y a cette disposition à accueillir un certain nombre d'informations. Donc vous avez raison, l'environnement social est fondamental et j'en tiens pleinement compte puisque en réalité l'histoire que je raconte c'est la rencontre de ces dispositions intellectuelle avec une certaine configuration du marché de l'information. Et de tout temps, les cultures humaines ont essayé de tempérer, n'est-ce pas, ces grandes pentes saillantes de notre esprit pour ne pas faire de nous des esclaves de ces espèces de boucles addictives. Seulement voilà, la plupart du temps, on a essayé de le faire en proposant des récits qui étaient en fait des récits trompeurs. J'ai parlé de la religion, j'ai parlé des idéologies. Je pense que c'est pour ça que mon livre s'appelle Apocalypse cognitive. J'annonce pas la fin des temps, Patrick. Hein,
ce
que
Apocalypse dans le sens de révélation.
Exactement, dans l'étymologie du terme, révélation. Je crois que nous devons, y compris pour construire un discours politique rationnel, en passer par l'acceptation de certains traits constants et de notre nature, en quelque sorte, même si j'aime pas tellement ce terme. C'est-à-dire regarder bien en face l'image un peu grimaçante que dessinent de nous les traces numériques que nous laissons. Nous ne sommes pas assignés définitivement à cela. Ce n'est pas notre destin définitif, mais c'est un risque potentiel.
Donc il faut de la lucidité et le match, si je puis dire, n'est pas joué. Un mot encore sur la crise sanitaire que nous vivons. On a démarré par l'actualité américaine de Trump, la crise. On est toujours en situation d'incertitude. Pourquoi, Gérald Bronner, l'incertitude crée-t-elle naturellement de l'irrationalité ?
Eh bien parce que précisément, là c'est vraiment un sentiment qui est profondément heurtant pour notre cerveau, l'incertitude. J'avais fait, vous savez, ma thèse il y a bien longtemps sur ce sujet, sur l'incertitude. J'écris le que sais-je sur la question de l'incertitude. Donc c'est une question qui me passionne et ce que je sais, c'est que de toute façon, le cerveau va toujours trouver des ruses pour réduire, même irrationnellement, cette incertitude. N'est-ce pas ? Bah parce que l'incertitude, c'est un grand inconfort parce qu'il peut représenter encore un danger. Songez là aussi, en un temps où le monde était particulièrement hostile, eh bien nous sommes un peu une espèce probablement paranoïaque. Quand il y a des faibles probabilités de risque, nous avons tendance à les multiplier intuitivement par 10 ou 15. Nous savons par exemple que nous avons tendance à sous-estimer la distance d'un corps qui se rapproche de nous, de nous-mêmes. C'est un très bel article de Nature qui le montre. Et là, vous pourriez dire, mais pourquoi ? Bah, tout simplement parce que ça nous permet d'étaler plus vite, n'est-ce pas ? Si vous pensez qu'un corps qui se rapproche de vous est à 50 mètres et non pas à 100 mètres comme il l'est, bah, ça vous permet de courir et de vous sauver la vie.
Merci beaucoup Gérald Bronner. Apocalypse cognitive au PUF, merci à vous.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Merci de nous avoir suivis. Marguerite Lefebvre, dans un instant pour d'autres informations à 13h, puis La France bouge, Emmanuel Duteil et Elisabeth Assayag. Bonne journée.